France Culture.
Il est 18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Quelle riposte européenne aux menaces de surtaxes douanières américaines? Les 27 se creusent la tête, leurs ambassadeurs sont réunis à Bruxelles, tandis que les dirigeants européens affichent leur unité, montant tour à tour au créneau face à Donald Trump, y compris Giorgia Meloni. Assiste-t-on à la deuxième chute de Raqqa en Syrie? L'ancien bastion du groupe terroriste État islamique est en passe d'être repris par l'armée syrienne, qui poursuit son offensive dans le nord et l'est du pays, repoussant les forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Enfin, nous irons au Maroc où a lieu ce soir la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'affiche de cette finale Maroc-Sénégal a tout d'un symbole dans le pays où sont installés près de 200 000 Sénégalais. D'Emmanuel Macron à Giorgia Meloni, les Européens se montrent unis après les menaces de surtaxes douanières de Donald Trump. Le président américain promettant d'appliquer des droits de douane supplémentaires de 10% aux 8 pays européens ayant envoyé des militaires au Groenland tant que ces derniers s'opposent à l'annexion du territoire danois par les États-Unis. Dans une déclaration commune, ces 8 pays, dont la France, se disent déterminés à défendre leur souveraineté face à ces menaces qui sapent les relations transatlantiques et risquent de conduire à un dangereux engrenage. Alors que les 27 ambassadeurs de l'UE sont réunis en urgence à Bruxelles depuis une heure pour élaborer une réponse coordonnée. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir.
Correspondant à Bruxelles de France Culture, eh bien dans leur déclaration, les dirigeants européens sont en tout cas à l'unisson. Giorgia Meloni a ainsi notifié à Donald Trump l'erreur qu'il faisait et Emmanuel Macron demande lui l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne.
Oui, on en a beaucoup parlé l'an dernier lors du déclenchement de la guerre commerciale de Donald Trump. Cet instrument, c'est un peu l'arme atomique de l'arsenal européen. Il permet d'agir dans plusieurs directions en même temps. Il peut, par exemple, empêcher les investissements en Europe d'entreprises américaines, donc, en l'occurrence. Il peut aussi restreindre ou geler leur accès au marché public européen, imposer des quotas pour limiter l'importation de certains produits ou services, ou encore limiter ou interdire l'accès au marché unique européen. Ça peut, par exemple, empêcher les géants de la tech de la Silicon Valley de proposer leurs services aux internautes européens. Alors on a entendu plusieurs appels à son activation, à la fois d'Emmanuel Macron, c'est vrai, mais aussi de la VDMA, l'association allemande des fournisseurs de machines-outils pour l'industrie. Cet instrument anti-coercition, il avait été conçu en 2023, c'était pour contrer la Chine, mais il n'a jamais encore été utilisé. Ça nous emmène d'ailleurs à une autre piste d'action que les Européens pourraient par exemple utiliser, remettre en route les deux paquets de droits de douane très spécifiques conçus l'an dernier en rétorsion et qui sont pour l'instant suspendus. C'est la situation actuelle. On en saura plus, on l'espère, à la fin de la réunion des ambassadeurs.
Pierre Benazé en direct de Bruxelles pour France Culture. C'est un premier tour de l'élection présidentielle très serré au Portugal où les électeurs doivent désigner depuis ce matin leur prochain président. Alors s'il n'a pas de pouvoir exécutif, le président portugais dispose de même du droit de dissoudre le Parlement. Or, le candidat d'extrême droite, André Ventura, pourrait bien arriver en tête ce soir devant son concurrent socialiste et le candidat de droite. Un second tour sera probablement organisé dans le pays, une première depuis 40 ans. Après plusieurs quartiers d'Alep la semaine dernière, l'armée syrienne a repris aux troupes kurdes plusieurs villes et installations stratégiques du nord et de l'est de la Syrie, jusqu'ici contrôlées par les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes. L'armée gouvernementale serait ainsi entrée dans la périphérie de Raqqa, porte d'entrée vers le nord-est syrien et ancien bastion du groupe terroriste État islamique défait par les FDS en 2017, mais où le président syrien, Ahmed al-Shara, souhaite dorénavant étendre sa souveraineté pour unifier la Syrie. Manon Chaplin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante en Syrie et vous avez suivi, Manon, le convoi de l'armée syrienne qui est entré ce soir à Raqqa.
Oui, il a fallu emprunter un barrage qui traverse l'Euphrate à quelques kilomètres à l'est de Raqqa pour entrer dans la ville. Les forces démocratiques syriennes avaient fait exploser un peu plus tôt les deux ponts qui y mènent pour ralentir l'offensive de l'armée. Cela n'a pas fonctionné. Les tanks des forces gouvernementales ont pénétré la ville aux alentours de 17h. Nous y étions. Ils ont été accueillis sous les acclamations des habitants, des tirs en l'air que l'on entend toujours ce soir, des drapeaux de la Nouvelle-Syrie qui étaient dans ces localités jusqu'ici interdits. Ce qu'il faut comprendre, légende, c'est que les zones récupérées ces derniers jours par l'armée à l'est d'Alep sont faites de localités arabes. Les habitants rencontrés aujourd'hui nous ont dit vivre cette offensive comme une libération. Les statues à la gloire des forces démocratiques syriennes ont été déboulonnées sous nos yeux par les habitants. Les prisons ouvertes, on nous a parlé à l'instant tout spécialement d'une prison à Raqqa d'où sont sorties des centaines de femmes et des enfants. La situation reste instable pour le moment, mais toujours, alors que la nuit tombe, des habitants célèbrent cette arrivée militaire.
Manon Chaplin à Raqqa, en Syrie. Internet revient progressivement en Iran. Coupé depuis le 8 janvier en pleine vague de répression contre les manifestations, certains services en ligne ont été rétablis cet après-midi, d'après l'ONG de surveillance et de cybersécurité NetBlocks. Plusieurs milliers de personnes ont été tuées depuis le 28 décembre et le début d'une vague de contestation contre le pouvoir, la plus importante depuis la fondation de la République islamique en 1979. Les autorités affirment avoir repris le contrôle de la situation. Les universités ainsi que les écoles ont été rouvertes aujourd'hui, de même que le bazar de Téhéran, là où la contestation a débuté fin décembre contre l'inflation. Christian Chéneau a pu s'entretenir avec le correspondant de RFI à Téhéran, Siavosh Ghazi.
La vie a repris son cours normal dans le grand bazar de Téhéran où je me suis rendu. La plupart des magasins étaient ouverts ce matin avec de nombreux badauds et de clients qui se promenaient dans les allées du grand bazar de Téhéran. Les différents corps de métier, comme par exemple les vendeurs de tissus, des outils de cuisine, des équipements de voitures ou d'autres, avaient repris le travail. Seule exception, une partie des marchands d'or, les bijoutiers n'ont toujours pas réouvert leurs magasins, même si certains commençaient à nettoyer les vitrines pour une prochaine réouverture. Devant l'entrée du grand bazar de Téhéran, j'ai pu voir également une centaine des membres des forces de l'ordre en groupe de 20-30 déployés devant l'entrée du grand bazar de Téhéran pour éviter toute nouvelle tentative de manifestation, là où avait commencé le mouvement de contestation il y a 3 semaines.
Et face à cette brutale répression en Iran, et bien de nouveaux rassemblements ont eu lieu aujourd'hui à Paris. Hier, au moins 3000 personnes ont manifesté dans la capitale. Des rassemblements ont également eu lieu à Tours, Dijon, Nantes ou encore Lille. Qui du Sénégal ou du Maroc sera le nouveau champion d'Afrique? C'est l'affiche de la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, ce soir à Rabat, au Maroc. Une affiche rêvée entre deux peuples frères et liés, sénégalais et marocains, car près de 200 000 Sénégalais vivent aujourd'hui au Maroc. Une diaspora devenue incontournable dans un pays qui n'est plus seulement un pays de transit, mais qui est devenu un pays d'installation pour des migrants d'Afrique de l'Ouest. À Rabat pour France Culture, c'est le reportage d'Adèle Belloumri.
Tout près de la médina de Rabat et malgré la pluie, beaucoup de Sénégalais mangent au restaurant Mama Fatou, véritable repère de la diaspora.
Moi je m'appelle Mamadou Ndiaye, je viens du Sénégal. Je suis arrivé au Maroc depuis 2019. Actuellement je suis dans l'entrepreneuriat en fait. Je vends des téléphones portables, j'ai aussi une boutique africaine, société import-export.
Grâce à des accords anciens entre Rabat et Dakar, Mamadou est entré au Maroc sans visa. Pour beaucoup, c'est l'occasion de venir chercher une vie meilleure, de trouver un travail et de s'installer au Maroc.
Je suis venu ici,
c'était pas pour aller en Europe, c'était pour travailler dans l'agroalimentaire. Mais lorsque je suis venu, c'était pas facile. Du coup, j'ai basculé dans les centres d'appel. J'ai travaillé avec SFR pendant 3 ans, je sais pas. Et après, j'ai créé ma société, voilà. Si tu as la carte séjour, tu as la possibilité de travailler ici. Ils privilégient les Sénégalais, en fait. Si tu sais manier la langue française, tu peux travailler dans les centres d'appel. Il y a les restaurants, il y a les cafés.
Marocains et Sénégalais sont liés depuis longtemps, notamment par l'islam. Un exemple, en 1964, le roi Hassan II a offert la grande mosquée de Dakar, symbole de l'amitié entre les deux pays. Et depuis, cette fraternité perdure, nous dit Rachid de Casablanca.
Dans leur comportement et même dans la vie quotidienne, ils ont des caractères très similaires à ceux des Marocains. Donc l'entente, on va dire, elle se fait de manière très spontanée, très naturelle. Peut-être dans les cafés, ça va peut-être un petit peu se chambrer. Un match de foot, forcément, on a tous envie de le gagner. Surtout quand il y a un titre continental au bout. Mais je pense pas que ça ira plus loin que ça.
À Rabat, ce soir, un seul pays gagnera la CAN, mais la fête, elle, se fera assurément entre les deux peuples.
Le reportage d'Adèle Belloumri. Enfin, elle s'apprête à quitter le gouvernement. Rachida Dati quittera ses fonctions ministérielles avant les élections municipales de mars prochain, mais sans donner de date précise. La ministre de la Culture, candidate à la mairie de Paris, a également assuré que la réforme de l'audiovisuel était faisable. Quant au musée du Louvre, en proie à un mouvement de grève 3 mois après son cambriolage, Rachida Dati affirme que des décisions conséquentes allaient être prises sous peu, notamment concernant Laurence Descartes, présidente directrice du musée.
C'est pas qu'une question de personne, c'est aussi une question de projet.
et le projet d'établissement. Et pendant très longtemps, ces grands établissements, quand on nommait quelqu'un, il y avait une convention d'objectifs, mais à la limite, on était dans la tacite reconduction, sans regarder finalement les détails. Ça nous, quand vous avez comme ça une crise ou un moment important, ça nous oblige à revoir aussi les modalités d'organisation, où sont les préoccupations. C'est pour ça que là, j'ai revu l'organisation, la gouvernance, on va revoir, et effectivement, il y aura un sujet de personne.
Rachida Dati, invitée de nos confrères de France Inter. Un mot de météo avec des pluies intenses qui se poursuivent la nuit prochaine sur le Roussillon et la Corse. Demain matin, le ciel restera nuageux sur l'est du pays et les nuages apporteront quelques pluies sur la façade ouest. Les minimales seront comprises entre moins 2 et 2 degrés sur le Grand Est, 3 à 8 degrés sur les autres régions. C'est la fin de ce journal, préparé avec Caroline Beneteau.